Carrefour des Arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Bonjour, bienvenue à Carrefour des Arts dans notre série sur l'Art Nouveau, un mouvement artistique qui a étendu son influence sur toute l'Europe. Dans nos émissions précédentes sur ce mouvement, nous avons développé les origines de l'Art Nouveau depuis Arts and Crafts, né en Angleterre, et ses principaux inspirateurs John Ruskin et William Morris. Nous avons ensuite étudié les expériences de Robert Ashby à Chipping Campden, puis les pré-raphaélites et suivi l'Art Nouveau en Allemagne et la sécession viennoise. Toujours en compagnie de Brigitte Ducoussot-Mao. Madame Ducoussot-Mao, bonjour.
Bonjour Christa Leuc.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur et professeur d'histoire de l'art, commissaire d'exposition et spécialiste, entre autres, de l'Art Nouveau. Vous allez nous parler aujourd'hui rapidement de l'Art Nouveau en France et de manière plus détaillée de l'Art Nouveau à Paris, en dessinant le portrait d'artistes talentueux, moins célèbres peut-être qu'Hector Guimard, Émile Gallet ou Victor Prouvé, dont les œuvres jalonnent parfois notre itinéraire quotidien. Ces artisans de cette nouvelle esthétique ne furent pas des rebelles, mais des pionniers et des initiateurs en bien des domaines.
Oui, comme en Angleterre, en Allemagne et en Autriche, les jeunes artistes français s'insurgeaient contre la pesanteur de l'Académie des Beaux-Arts, se lassaient de l'imitation des modèles gréco-romains et, à l'instar de John Constable et de Gustave Courbet, choisissaient comme seule source d'inspiration la nature dans toute sa diversité. Ils n'étaient pas aussi soucieux que les Anglais de changer le monde par les formes et peu concernés par le fait de faire pénétrer l'art dans la vie quotidienne par le biais des arts appliqués. Armand Point fut l'héritier en droite ligne du mouvement Arts and Crafts par son refus d'allégeance à l'art officiel et son indépendance. C'est lui qui a créé la confrérie Haute Claire à Marlotte, en Seine-et-Marne.
Qui est cet Armand Point qui se situe dans la tradition des guildes ?
Armand Point, dont les dates sont 1860-1932, était un peintre inspiré par la confrérie pré-raphaélite. En 1897, s'inspirant de William Morris, il décida d'ouvrir dans sa maison de Marlotte, au cœur de la forêt de Fontainebleau, un atelier avant-gardiste où se côtoyaient et travaillaient ensemble des artistes qui ne devaient leur formation qu'au traité des maîtres de la Renaissance italienne du XVe et du XVIe siècle, dont ils souhaitaient retrouver l'esprit dans leur création. Ils apprirent leur métier in situ, découvrirent en se trompant comme des artistes néophytes. Leurs activités allaient de la broderie à la reliure, en passant par le travail d'orfèvre. Ils travaillaient les arts précieux dans un pur esprit médiéval.
Oui, quelques érudits et poètes vinrent rejoindre cette colonie artistique qui témoigne d'une volonté de concevoir un art nouveau en totale autonomie, hors de toute implication avec les pouvoirs publics ou privés, n'est-ce pas ?
Il est vrai qu'en France, l'Union centrale des arts décoratifs imposait alors un enseignement du dessin rationnel dans le secondaire, qu'elle étendit ensuite à toutes les écoles de dessin sur l'ensemble du territoire. Les productions émanant d'Haute Claire étaient en parfaite contradiction avec cet art et fortement influencées par le courant symboliste, qui refusait la laideur des productions industrielles et préférait la beauté des mondes parallèles, les mystères, les ambiances, les heures imprécises, l'aube, le crépuscule ou les eaux dormantes. L'art nouveau français transcrit les sensations en métaphores. Certains artistes français, comme René Lalique ou Armand Point, ont cherché à entrer dans le domaine des correspondances et sont restés proches du mouvement romantique.
L'art nouveau s'est développé en France autour de, disons, de 1890 et atteint son point culminant lors de l'exposition universelle de 1900. Et cet art nouveau s'est implanté comment, finalement ?
L'art nouveau s'est déplacé de la Belgique et de l'Allemagne vers la France. Il s'est imposé à Paris grâce à Henri van de Velde, qui choisit de décorer la galerie de Samuel Siegfried Bing. C'est après cette exposition qui eut lieu en 1895 et fit scandale Edmond de Goncourt qualifiait cette décoration de « yachting style » que Paris devint le centre le plus important du nouveau style. Henri Van de Velde était un peintre belge qui a diffusé les idées de William Morris à Darmstadt grâce au mécénat du grand-duc Ludwig de Hesse. Il fut ensuite, en 1908, directeur de l'école de Weimar, futur Bauhaus, dont Walter Gropius prendra la direction en 1914. Quant à Samuel Bing, il est né à Hambourg, a vécu de 1835 à 1905 et fut attiré en France par ses frères qui fabriquaient de la porcelaine à Paris vers 1871. L'un de ses frères était consul à Tokyo. Et les fréquentes visites au Japon de Samuel Bing et l'aide de son frère lui permirent de devenir un collectionneur d'objets rares. En 1875, on le retrouve comme expert en objets orientaux à Drouot. Van Gogh travaillait pour lui et vendait avec commission les estampes que Bing ramenait de Cipango. Gauguin et Émile Bernard ne juraient plus que par l'ukiyo-e et s'en sont inspirés pour créer le synthétisme.
Alors qu'est-ce que c'est que ce l'ukiyo-e qui a marqué tous les artistes de la fin du 19e siècle?
L'ukiyo-e, ou « Image du monde flottant », est une peinture populaire qui circulait au Japon à l'époque de la dynastie des Tokugawa. Ce sont des gravures sur bois qui résultent d'une collaboration serrée entre le peintre, le graveur et l'imprimeur. Il faut parfois jusqu'à 10 planches gravées pour colorier une estampe, car il faut une couleur par planche. Le coloriage s'effectue par passages successifs. Les couleurs sont passées avec un pinceau ou un tampon, que l'on nomme parfois une poupée. L'impression s'effectue sur un papier japonais, souple et absorbant comme un buvard, qui est ensuite, après séchage, roulé et mis en circulation, puis diffusé dans tout l'empire du soleil levant.
Ce sont donc ces estampes colorées que les artistes découvrirent à Paris dans la galerie de ce monsieur Bing, comme vous venez de dire, et sa galerie qui se trouvait au 22 rue de Provence, et qui portait le nom Art Nouveau d'ailleurs.
Oui, c'était cela. Et la revue Studio a célébré l'ouverture de la galerie qui se trouvait au numéro 22 de la rue de Provence comme un événement et a rendu hommage à ce personnage qui a contribué à modifier l'évolution de l'art dès 1888 en présentant à Paris une exposition d'estampes japonaises et en créant une revue mensuelle luxueuse et très imagée qui s'appelait Le Japon artistique. L'influence du Japon sur l'art de la seconde moitié du XIXe siècle est considérable. Elle coïncide avec la réouverture des relations commerciales entre le Japon et les pays occidentaux en 1853 et 1854. À la suite de ces accords, plusieurs expositions internationales eurent lieu. À Londres en 1862 et à Paris en 1867. Pour les Européens, le Japon est à ce moment un pays lointain, plus imagé que connu, malgré les journaux des voyageurs et les notes manuscrites des missionnaires jésuites. La présentation de ces œuvres sur papier, en rouleau, d'Utamaro, Hiroshige, Okuzai ou Morobutu, va perturber le système de représentation du monde des artistes français. Certains artistes n'introduisirent dans leurs toiles que quelques détails exotiques, des éventails, des kimonos, des ombrelles ou des porcelaines. D'autres osèrent adopter la dissymétrie, renoncèrent à la perspective ou adoptèrent la peinture en aplat coloré comme Félix Vallotton, Pierre Bonnard, Henri de Toulouse-Lautrec. Dans le premier numéro du Japon artistique, Samuel Bing écrivait « L'art japonais est un art nouveau qui aura un large impact sur la créativité européenne ». Cette parole était révélatrice, car la fièvre du japonisme saisit tous les créateurs et particulièrement ceux du mouvement Nabi. Maurice Denis appelait Pierre Bonnard le Nabi japonard. Samuel Bing n'a pas été étranger à ce brusque engouement pour l'Extrême-Orient.
L'exposition universelle de 1900, Samuel Bing obtient ensuite un crédit pour présenter un pavillon Art Nouveau avec une enfilade de pièces et surtout des meubles construits par Georges Defeur. Alors qui est cet artiste, Brigitte Ducoussomao?
Georges Defeur est un pseudonyme. Ce peintre, décorateur de théâtre et designer s'appelait en réalité Georges van Swichters. Il était originaire de Hollande. Et pendant son apprentissage à la librairie de La Haye, il découvrit le courant symboliste et surtout Pierre Puvy de Chavannes. Il se rendit aussitôt à Paris pour travailler avec Jules Chéret, le célèbre lithographe qui, par son talent et sa collaboration avec Henri de Toulouse-Lautrec et Mucha, fit accéder l'affiche au rang d'art majeur. La rencontre de Georges Defeur avec Samuel Bing fit sa renommée et sa fortune. En effet, le marchand d'art asiatique commercialisait toute sa production. Les Parisiens s'arrachaient ses meubles et ses objets de décoration, tels que les porcelaines, les bijoux ou les tissus. Avant la Première Guerre mondiale, il s'installa en Angleterre comme décorateur de théâtre, puis revint en France en 1928 et fut nommé à ce moment-là professeur à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Ses ouvrages, très élégants, se distinguent par une ornementation délicate d'entrelacs en filigrane sur du bois de frêne ou de poirier, qui plaisait beaucoup aux femmes des industriels et des riches banquiers.
Encore aujourd'hui d'ailleurs.
C'est vrai, c'est toujours très beau.
Oui.
Il est possible de voir ce travail au Musée des Arts Décoratifs à Paris, dans lequel se trouve également un département réservé à l'art de l'affiche. Il y a là une grande partie du travail d'Alphonse Mucha. Cet artiste, né en 1860 et qui décède en 1939, d'origine tchèque, qui peut être considéré comme l'un des acteurs français de l'Art Nouveau, car il fit la majeure partie de ses études à Paris, à l'Académie Julian et à l'Académie Colarossi. Il a également travaillé essentiellement à Paris. Il collaborait alors avec l'éditeur Armand Collin et a créé sa première affiche pour Sarah Bernhardt. Il a obtenu en 1900 la médaille d'argent pour le pavillon de la Bosnie-Herzégovine et a été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1901. Le style de Mucha rappelle l'art nouveau viennois et se caractérise par des ornements floraux enlaçant des visages ou des corps de femmes à longues chevelures ondulées. Grâce à ses magnifiques affiches aux coloris subtils et aux formes souples, il est parvenu à l'objectif que s'étaient fixé tous les artistes de l'art nouveau, sensibiliser l'homme de la rue à l'art.
Et à propos, quelle était la place des femmes dans cet art nouveau? Dans l'art sécessionniste de Vienne et dans la peinture de Klimt, par exemple, la femme est fatale et érotisée. Et en est-il de même dans l'art nouveau français?
Le rôle nouveau imparti aux femmes constitue une des particularités de la société fin de siècle. Et ce fait eut une incidence sur l'art nouveau en France, où la silhouette féminine devint un motif décoratif majeur. Les femmes avaient acquis l'accès aux universités en 1860. La loi Jules Ferry leur ouvrait les portes de l'école primaire et en 1885, les femmes médecins obtinrent le droit de pratiquer leur art dans les hôpitaux publics. Le premier congrès des droits de femmes se tint à Paris en 1878. Hubertine Auclair, qui a vécu entre 1848 et 1914, revendiquait le droit de vote pour les femmes dès 1881. Elle fut la première suffragette française et a créé en 1881 le premier organisme féministe. Il se nommait la Citoyenne. Cette femme nouvelle posait un problème politique et l'on demanda même à des biologistes et des anthropologues de fournir des justifications scientifiques sur le rôle domestique de la femme. Karl Vogt, professeur d'histoire naturelle, libre penseur, très contesté par les intellectuels genevois, expliquait dans ses leçons sur l'homme en chair à Genève en 1864 que le crâne de la femme se rapprochait de celui de l'enfant et de celui des races inférieures.
Scandaleux. Mais Edmond de Goncourt partageait ses opinions et trouvait les femmes si peu plaisantes qu'il recherchait une satisfaction à son désir esthétique en convoitant des objets d'art.
En effet, ces objets d'art nouveaux reflètent toutes ces interrogations consécutives au nouveau rôle de la femme dans la société. Certains artistes péjoraient la femme, comme le sculpteur ébéniste Rupert Carabin, qui utilisait le corps de la femme accroupie, en soumission, comme piètement de ses tables ou de ses sièges. D'autres artistes au contraire, l'idéalisait, en faisait un être éthéré, une nymphe ailée, une libellule ou une sirène inaccessible. Souvenons-nous des broches ou des diadèmes de René Lalique, ce joaillier formé en Angleterre qui travaillait pour Cartier et utilisait des matériaux insolites pour l'époque, comme l'émail, l'écaille, la corne et surtout le cristal ou le verre opaque ou transparent que Sarah Bernhardt, la grande comédienne, mit à la mode en arborant ses somptueux bijoux. Et l'on peut admirer certaines de ses plus belles œuvres à la Fondation Gulbenkian à Lisbonne, au Portugal. D'autres artistes la montraient dans son nouvel éclat, libre, en mouvement, ondoyante et multiple, porteuse de tous les possibles, pleine de grâce. L'actrice Sarah Bernhardt et la danseuse Loy Fuller furent les égéries de ces derniers. Je pense à la lithographie en couleur de Loy Fuller que Toulouse-Lautrec a réalisée en 1893, au bronze du sculpteur François Raoul Larche. Cette lampe de table où la danseuse s'enroule comme une torche dans les voiles, Stéphane Mallarmé lui a dédié également de nombreux poèmes. Loy Fuller, qui a vécu entre 1862 et 1928, avait révolutionné l'art de la scène, du décor, de la lumière et du costume. Et sa danse serpentine, qui a inspiré les artistes, lui a valu une renommée internationale.
Alors, la femme, dans tous ses états, on peut dire, était-elle la seule source d'inspiration de ces artistes français du dernier quart du XIXe siècle ? Mais la nature semble aussi très présente dans cet art. L'évocation des mondes oniriques ne révèle-t-elle pas l'émergence du subconscient à cette époque ?
Si la sécession viennoise a été influencée par le psychanalyste Sigmund Freud, les artistes français avaient eu connaissance, eux aussi, des travaux de Charcot. Le professeur et maître de Freud sur l'hypnose et les expériences sur l'hystérie à la Salpêtrière. Et la sexualité de la femme fascine et terrorise. Mais elle ne peut plus être niée puisqu'un discours médical lui donne corps. La femme existe, ailleurs, au-delà du désir de l'homme, et en cela elle est gênante ou dérangeante. En tout cas, mouvante et mystérieuse, complexe comme une arabesque. Et bien sûr, nous allons retrouver tout cela dans le moderne style français, encore nommé style pieuvre ou style nouille par ses détracteurs.
Oui.
Dans cette atmosphère symboliste qui règne en France et imprègne la littérature et la musique, nous retrouverons sans cesse la référence à la nature, au grand Pan. Le compositeur Claude Debussy avoue tout devoir à cette merveilleuse inspiratrice qu'est la nature. Sa musique aux guirlandes, souple et mélodieuse, est comparable à l'œuvre d'Hector Guimard. Cet architecte qui installe en 1900 les pavillons libellules de fer et de verre à l'entrée des stations du métropolitain à Paris.
Ah, nous pouvons encore en admirer à la Porte Dauphine ou à la station Abbesse, ces fameuses stations de métro à Paris.
Et le plus beau papillon libellule de fer, de verre et de céramique se trouvait alors à la station Bastille. Hector Guimard, qui a vécu entre 1867 et 1942, a également édifié un magnifique immeuble de rapport de 36 appartements qui est situé au 17 et qui va jusqu'au 21 de la rue La Fontaine à Paris, dans le 16e arrondissement, avec une façade ondulante qui évoque le souffle du vent sur l'eau.
Oui, on peut aussi s'arrêter au numéro 122 de l'avenue Mozart et lever les yeux sur la façade de l'hôtel particulier de Guimard, ou encore admirer l'hôtel particulier de Paul Mézara, un industriel du textile qui voulait installer son bureau et son appartement au numéro 60 de la rue Fontaine. Décidément, le 16e arrondissement à Paris est riche en construction art nouveau. Donc, cet hôtel particulier est situé au 60 de la rue La Fontaine, dans le 16e arrondissement, et qui fut édifié entre 1910 et 1911.
Toujours dans le 16e, on peut encore admirer la Villa Flore au 120 avenue Mozart ou les façades de la rue Agar au numéro 19. Et pour ces architectes de l'Art Nouveau, une place prépondérante est accordée à la ligne. Hector Guimard utilisait une ligne non abstraite, issue de la nature, une tige de métal.
Oui, ne disait-il pas, ce qu'il faut éviter dans tout ce qui est continu est le parallèle et la symétrie. Et encore, il ajoutait, la nature est le plus grand bâtisseur. Elle ne fait rien de parallèle et rien de symétrique.
C'est tout à fait exact. L'Art nouveau est d'une manière générale dominé par la courbe. Il s'est installé avec aisance parce que les progrès technologiques permettaient le développement d'une architecture plus légère, constituée de poutrelles de fer cintrées ou architecturées en treillage, comme sur la Tour Eiffel.
Ah oui.
Les industriels du verre et du fer ont facilité l'implantation de cet art au cœur de la ville. Et c'est dans cette mouvance qu'Henri Labrouste, qui a vécu entre 1801 et 1875, initiateur de l'architecture fonctionnaliste, prix de Rome d'architecture, est appelé à édifier la bibliothèque Sainte-Geneviève entre 1850 et 1857 et la salle de lecture de la Bibliothèque nationale de France entre 1854 et 1857. Et la gigantesque tour de fer de 300 mètres de hauteur, érigée d'après les plans de Gustave Eiffel, entre 1887 et 1889, faisait montre de la qualité des matériaux et de la parfaite maîtrise des ingénieurs français.
Oui, on a utilisé la pierre, le fer, le verre. Est-ce qu'il n'y avait pas encore d'autres matériaux spécifiquement Art nouveau ?
Il y en avait d'autres, et au 29 de l'avenue Rapp à Paris, il est impossible de ne pas remarquer un immeuble construit par Jules-Aimé Lavirotte, qui a vécu entre 1864 et 1937. Cet architecte français, ancien élève d'Antoine Gaudi, animait et rehaussait de céramique les façades des maisons qu'il construisait et dans lesquelles architecture et décoration s'entremêlaient et se confondaient. Au point que Dali qualifiait le travail de Jules Lavirotte de premier exemple de sculpture hystérique. Il qualifiait cet immeuble particulièrement d'extase érotique sans fin.
Ah oui, on a couvert tout un pan de l'histoire de l'art, de cette époque en tout cas. Il y a aussi avenue Wagram à Paris dans le 17e arrondissement, cet hôtel céramique qui se trouve au numéro 34 je crois et qui fut construit un peu plus tard en 1904 par ce même architecte. Et d'autres immeubles ou églises à décors de céramique édifiés par d'autres architectes encore de l'Art nouveau.
Et oui, il nous faut bien sûr évoquer l'église Saint-Jean de Montmartre en briques rouges, béton armé gris et cabochons de céramique bleu vert qui a été construite par Anatole de Baudot qui a vécu entre 1834 et 1915. Anatole de Baudot était architecte et théoricien français. Il était le disciple de Labrouste et de Viollet-le-Duc qui, lui, fut le premier à adopter le béton armé pour un édifice religieux. L'architecte Viollet-le-Duc fut également le modèle de tous les artistes français, le théoricien et le penseur de la nouvelle esthétique française.
Et cette église se trouve sur la place des Abbesses dans le 18e arrondissement et l'intérieur est orné de vitraux colorés et de mosaïques dorées qui illuminent merveilleusement et réchauffent le gris du béton armé de cette église.
Et la céramique française de la fin du XIXe siècle a joui d'une immense célébrité, et cela depuis l'exposition universelle de 1873 à Vienne. Les céramistes français étaient incontestablement les maîtres du feu. Et parmi ces nombreux artistes, il nous faut retenir le nom de Jean-Joseph-Marie Cariès, qui est né à Lyon en 1855. Il était sculpteur et céramiste, il s'est formé aux Beaux-Arts de Lyon et fut, comme la plupart des céramistes du XIXe siècle, impressionné par l'art japonais de la poterie. Il fonda un premier atelier de céramique à Saint-Amand-en-Puisaye et fut un inventeur génial, spécialiste des hémomates, dont les nuances chaudes deviendront la marque de la céramique française. Il est décédé en 1894. Quant à Auguste de la Herche, qui a vécu entre 1857 et 1940, il a tout d'abord été peintre paysagiste, puis il a travaillé ensuite dans les ateliers de verrerie et d'orfèvrerie. Il a découvert la céramique en 1883 et la maison Christophe l'a engagé comme directeur du service de galvanoplastie. une technique très compliquée qui se sert de l'électrolyse pour diffuser la couleur et l'émail. À partir de 1900, ces poteries étaient d'une si grande qualité qu'il fut considéré comme le céramiste le plus important des années 1900. De la Herche avait une préférence pour les vernis flambés et les décors gravés avec une petite meule ou ajoutés, c'est-à-dire en surimpression et en relief. Les céramistes français ont tenté des expériences plastiques très audacieuses qui ont permis de grandes avancées techniques dans cet art qui conjugue la terre et le feu. Il nous faut encore citer Edmond Lachenal, spécialiste du décor ajouté, et Albert-Louis Damouze, dont le travail en filigrane ou en camée, c'est-à-dire en gravure en relief, se rapproche de celui des verriers. La richesse des idées novatrices des artistes français dans la technique du bois, du fer ou de la céramique fut incomparable. Mais c'est essentiellement dans l'art de la verrerie que s'est exprimé au mieux le génie français. C'est dans cette pâte de verre, trouble, opaque, translucide, que se sont cristallisées les inquiétudes et les envolées de cette fin du siècle en France.
Il faudrait, pour évoquer tout cela encore plus précisément, une émission spéciale consacrée par exemple à Émile Gallet et l'école de Nancy. Je précise pour nos auditeurs que vous trouverez le nom et les références de tous les artistes évoqués dans notre émission à la fin de notre émission sur le site internet de Canal Académie. Brigitte Ducos-Somao, merci de votre éclairage sur cette belle époque et j'espère vous retrouver bientôt au Carrefour des Arts sur Canal Académie.